Erendis aurait souhaité prévenir la rencontre entre Ankalimé et son père en ce jour, mais elle craignait d'aller trop loin et de perdre la faveur du roi. Et les membres du conseil avaient depuis longtemps manifesté leur mécontentement de ce qu'elle éleva l'enfant à la campagne. Aussi, lorsqu'Aldarion revint à cheval en compagnie d'Enderk, Ankalimé attendait sur le seuil aux côtés de sa mère. Elle se tenait droite et raide comme elle et ne lui manifesta aucune civilité tandis qu'il mettait pied à terre et montait les marches vers elle.
« Qui êtes-vous » dit-elle. « Et pourquoi m'avez-vous fait lever de si bonne heure avant que quiconque dans la maison soit éveillé ?»
Aldarion la dévisagea attentivement, et bien qu'il gardât une contenance sévère, il souriait intérieurement. Car il discernait en elle une enfant de son propre sang et non de celui d'Erendis, et cela en dépit de toute l'éducation qu'elle avait reçue. « Il fut un jour où tu me connaissais, dame Ankalimé, dit-il. Mais qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, je ne suis qu'un messager venu d'Arménélos te faire souvenir que tu es la fille de l'héritier du roi, et, pour autant que je puisse juger, que tu seras son héritière à ton tour. Tu ne vivras pas toujours en ces lieux. Mais maintenant, madame, va-t'en retrouver ton lit jusqu'à ce que ta chambrière soit levée, si tu le souhaites. Je suis pressé de voir le roi. Au revoir. » Et il baisa la main d'Ankalimé et descendit les marches. Il se mit en selle et, avec un geste d'adieu, s'éloigna. Erendis, seul à la fenêtre, le regarda qui chevauchait sur le versant de la colline et remarqua qu'il se dirigeait vers Yarastorni et non vers Arménélos. Lors, elle pleura, de chagrin sans doute, mais plus encore de rage. Elle s'était attendue à ce qu'il fasse pénitence et qu'il la pria pour obtenir son pardon, qu'elle lui aurait accordé après l'avoir dûment réprimandée. Mais il l'avait traitée comme si elle était seule coupable, et sous les yeux de sa fille, l'avait ignorée. Trop tard, elle se rappela les paroles de Nounef il y a bien longtemps, et elle vit en Aldarion quelque chose d'imposant qui ne pouvait s'apprivoiser, animé d'une volonté implacable, plus dangereux encore dans sa froideur. Elle se leva et se détourna de la fenêtre, et elle réfléchit à ses torts.
« Dangereux, dit-elle, je suis d'un acier difficile à rompre, et il pourrait bien s'en apercevoir, quand bien même il serait roi de Nouménor. »
Aldarion poursuivit son chemin vers Yarastorni, le domaine de son cousin Halatan, car il pensait s'y reposer un temps et réfléchir. S'approchant, il entendit de la musique, et il trouva les bergers fêtant joyeusement Ulbar, revenu parmi eux avec de nombreux cadeaux et récits fabuleux. Et la femme d'Ulbar, couronnée de fleurs, dansait avec son époux au son des pipeaux. Au début, personne ne prit garde à Aldarion, qui les contemplait en souriant sur son cheval. Mais soudain Ulbar s'écria « Le grand capitaine !» Et son fils Ibal se rua vers l'étrier d'Aldarion tout haletant.
« Seigneur capitaine » s'exclama-t-il.
« Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pressé !» dit Aldarion, dont l'humeur s'assombrissait, car il se sentait désormais plein de colère et d'amertume.
« Je voulais seulement demander, » dit le garçon, « quel âge un homme doit-il avoir pour partir outre-mer sur un navire comme mon père ?»«
Il lui faut avoir l'âge des collines et nul autre espoir au cœur, » dit Aldarion, « ou alors tout simplement quand le cœur lui en dit. Mais ta mère, fils d'Ulbar, ne viendra-t-elle pas me souhaiter la bienvenue ?» Lorsque la mère d'Ibal s'approcha, Aldarion lui prit la main. « Accepteras-tu ceci de moi ? » dit-il. « C'est peu de choses, en échange des 6 années de soutien que me porta cet homme de bien dont tu m'as fait cadeau. » Et de sa sacoche sous sa tunique, il sortit un joyau rouge-feu, serti sur un bandeau d'or, et le lui mit dans la main. « Cela vient du roi des elfes, » dit-il. Mais il jugera le joyau en de bonnes mains lorsque je lui dirai. » Là-dessus, Aldarion fit ses adieux aux personnes présentes et reprit sa route, ayant perdu tout désir de s'attarder dans ce domaine. Et lorsqu'il apprit son étrange arrivée et son départ précipité, Halatan s'étonna fort, jusqu'à ce que d'autres rumeurs ne viennent à courir la campagne. Aldarion chevaucha un court temps, lorsqu'à faible distance de Yarastorni, il arrêta son cheval et parla à son compagnon Enderk. Quel que soit l'accueil qui t'attend, ami, là-bas dans l'ouest, je ne te retiens pas d'aller le trouver.
Rentre maintenant chez toi avec mes remerciements. Je suis d'humeur à aller seul. »
Mais cela n'est guère convenable, seigneur capitaine, dit Enderk.
En effet, dit Aldarion, mais c'est ainsi. Adieu.
Et il poursuivit son chemin seul jusqu'à Armenelos, et jamais plus ne mit les pieds en Emerié. Lorsqu'Aldarion eut quitté la pièce, Meneldur considéra la missive que lui avait donnée son fils, et il s'interrogea, car il vit qu'elle provenait du roi Gil-galad du Lindon. Elle était cachetée, et le sceau portait la devise du roi, de blanches étoiles sur une rondache azur. Et sur le pli extérieur, on avait écrit « Remis au Mithlond, entre les mains du seigneur Aldarion, héritier du roi de Númenoré, pour être remis au grand roi en personne, en sa ville d'Armenelos. » Alors Meneldur rompit le cachet et lut. « Dereinon Gil-galad, fils de Fingon, Atar Meneldur de la lignée des Aerendil, salutations. Que les Valar t'aient sous leur garde et que nulle ombre ne fût-ce que l'île des rois. Depuis longtemps, je te dois des remerciements pour m'avoir à maintes reprises envoyé ton fils Anardil Aldarion, celui que je considère comme le plus grand ami des elfes parmi les hommes d'aujourd'hui. Et voici que je te prie de m'excuser si je l'ai par trop retenu à mon service. Car j'avais grand et urgent besoin du savoir des hommes et de leur langue que seul il détient. Il a bravé maint péril pour me porter conseil. Il t'entretiendra de la nécessité où je suis. Et cependant, étant jeune et riche d'espoir, il ne se rend pas clairement compte combien grande est cette nécessité. C'est pourquoi j'écris ceci pour les seuls yeux du roi de Númenoré. Une ombre nouvelle se lève à l'est, et il ne s'agit pas de l'ambition tyrannique d'homme mauvais, comme le croit ton fils, mais un serviteur de Morgoth s'éveille, et des choses maléfiques à nouveau s'agitent. Chaque année, il gagne en force, car la plupart des hommes sont mûrs pour servir ses desseins. Le jour n'est pas loin, à mon sens, où la menace sera telle que les Eldar ne pourront s'y opposer seuls. C'est pourquoi, chaque fois que j'aperçois une haute nef des rois des hommes, mon cœur se tranquillise. Et à présent, je me permets de te demander ton aide. Si tu as des hommes dont la présence ne te fera pas défaut, prête-moi le secours de leurs bras, je t'en supplie. Ton fils te dira, si tu y consens, toutes nos raisons. Mais en fin de compte, il est d'avis, et telle est toujours la voie de la sagesse, que lorsque l'assaut viendra, et il viendra assurément, il nous faudra chercher à tenir les terres de l'ouest où vivent encore les Eldar et les hommes de ton sang, dont les cœurs n'ont point encore été assombris. Il nous faudra, à tout le moins, défendre les Riador et les abords des grands fleuves qui coulent à l'ouest des montagnes que nous nommons Ithaiglir, notre principal rempart. Mais cette paroi montagneuse comporte une large faille qui s'ouvre vers le sud sur les terres du Calenardon. Et c'est par là qu'il nous faut redouter les incursions de l'Est. L'hostilité rampe déjà le long de la côte en cette direction. On pourrait défendre la région et prévenir l'attaque, à condition de tenir quelques places fortes importantes sur le rivage voisin. Cela, le seigneur Aldarion l'a compris depuis de longues années. À Vinyalondé, près de l'embouchure du Guatlo, il a longtemps peiné pour établir un grand havre fortifié à l'abri de la mer et de la terre. Mais ses gigantesques travaux ont été vains. Il possède un grand savoir en la matière, car il a beaucoup étudié auprès du Kéridan, et il connaît mieux que quiconque les besoins de vos grands navires. Mais il n'a jamais disposé d'hommes en suffisance. Et Kéridan n'a ni forgeron ni maçon à lui céder. Le roi jugera de ce qu'il peut faire. Mais s'il consent à écouter avec faveur le seigneur Aldarion et à lui accorder tout soutien possible, alors l'espoir se fera un peu moins ténu en ce monde. Les souvenirs du premier âge s'estompent, et toutes choses refroidissent en terre du milieu. Qu'on ne laisse point s'attiédir de même l'ancienne amitié entre les Eldar et les Dunedain. Et songez-y, les ténèbres qui approchent sont grosses de haine envers nous, mais elles vous haïssent tout autant. Et la grande mer ne sera pas trop vaste pour leurs ailes si on souffre qu'elles atteignent leur pleine croissance. Que Manwë vous garde sous la protection de l'Unique et qu'il envoie des vents favorables pour gonfler vos voiles. » Meneldour laissa le parchemin tomber sur ses genoux. De grands nuages avaient précipité le crépuscule, porté par un vent d'est depuis le fond de l'horizon, et les hautes bougies à ses côtés parurent s'être amenuisées dans l'obscurité qui avait envahi ses appartements.
« Puisse Eru me rappeler, avant que ne survienne ces temps !»
s'écria-t-il à haute voix. Puis il se dit à lui-même,
« Hélas, quel malheur que son orgueil et ma froideur aient si longtemps séparé nos cœurs et nos esprits. Mais à présent, la sagesse veut que je remette, plutôt que je ne l'avais résolu, le sceptre entre ses mains, car ces choses dépassent mon entendement. Lorsque les Valar nous accordèrent le pays du Don, ils ne firent pas de nous leur vice-régent. Nous reçûmes le royaume de Nouménor, non point le monde. Ce sont eux, les seigneurs. À nous, il incombait de nous affranchir à jamais ici-bas de la haine et de la guerre. Car finie était la guerre, et Morgoth avait été chassé du royaume d'Arda. À cela ai-je cru, et c'est cela qui me fut enseigné. Et cependant, si le monde de nouveau s'enténèbre, les seigneurs ne peuvent manquer de le savoir, et pourtant, ils ne m'ont fait parvenir aucun signe. À moins que ce soit là le signe. Alors que faire? Nos pères furent récompensés pour avoir contribué à la défaite de la Grande Ombre, et leurs fils, eux, demeuraient à l'écart quand le mal se trouvait un nouveau chef. Trop de doutes m'assaillent pour gouverner, se préparer ou laisser venir. Faire des préparatifs pour une guerre qui n'est encore que conjecture? En plein temps de paix, former des artisans et des laboureurs à faire couler le sang et à se battre? Mettre le fer dans la main de capitaines avides et férus uniquement de conquête, qui se feront gloire du nombre des victimes? Et diront-ils à Eru, au moins tes ennemis étaient parmi eux? Ou alors, se croiser les bras, tandis que des amis meurent injustement? Laisser les hommes vivre dans la paix aveugle jusqu'à ce que l'envahisseur soit à nos portes? Et que feront-ils alors? Affronteront-ils le fer à main nue et mourront-ils en vain? Ou prendront-ils la fuite, abandonnant les femmes à leur cri? Et diront-ils à Eru, au moins, nous n'avons pas versé le sang? Lorsque l'une et l'autre voie peut conduire au mal, que vaut-il de choisir? Que les Valar règnent sous Eru. Je céderai le sceptre à Aldarion. Et cependant, cela même est un choix, car je sais fort bien quelle sera sa route. À moins qu'Erendis...
Et Meneldur se prit à songer avec inquiétude à Erendis en Emerie.
Mais de ce côté-là, il n'y a guère d'espoir, si tant est que cela puisse s'appeler de l'espoir. Aldarion ne cédera jamais sur des sujets si graves. Quant à elle, je connais son choix. À supposer même qu'elle consente à écouter assez longtemps pour comprendre ce qui est en cause. Car au-delà de Nouménor, son cœur ne s'envole point, et elle n'a aucune conception du prix à payer. Si son choix mène à sa mort durant les jours qui lui sont impartis, elle mourra courageusement. Mais qu'est-elle capable de faire de la vie et de la volonté d'autrui? Cela, il nous reste encore à le découvrir, aux Valar et à moi-même.
Aldarion revint à Roména le quatrième jour après le retour au port de Lirilonde. Fourbu et crotté par son trajet, il se rendit immédiatement à bord de l'Eambar, où il comptait désormais résider. Entre-temps, et à sa grande amertume, il trouva que beaucoup de langues jasaient déjà en ville. Le lendemain, il rassembla des hommes de Roména et les conduisit à Armenelos. Là, il ordonna à certains l'abattage de tous les arbres du jardin, à l'exception d'un seul, et qu'on les charria sur les chantiers navals. Et aux autres hommes, il donna ordre de raser sa maison jusqu'au sol, et il n'épargna que l'arbre blanc des elfes. Et lorsque les bûcherons furent partis, il le contempla qui se tenait debout dans le paysage dévasté, et pour la première fois, il vit que l'arbre était beau en lui-même. Soumis à la lente croissance des elfes, il n'avait atteint qu'une douzaine de pieds, et il était droit, élancé et juvénile, et alors avec, sur ses branches dressées vers le ciel, les bourgeons des fleurs d'hiver. Et l'arbre lui remit en mémoire sa fille, et il dit « Je t'appellerai également Ankalimé,
efface que vous vous teniez, elle et toi, ainsi longtemps dans la vie, sans laisser ni vent ni volonté vous courber, et ni rien ni personne vous ébrancher. » Le troisième jour qui suivit son retour de l'émerier, Aldarion se rendit auprès du roi. Tar-Meneldur, assis sur son trône, l'attendait, immobile. Et portant les yeux sur son fils, il eut peur, car Aldarion avait changé. Son visage était devenu gris, froid et hostile, tout comme la mer lorsqu'un nuage opaque offusque soudain le soleil. Debout devant son père, il se mit à parler lentement, sur un ton de mépris plutôt que de colère. « Quelle fut ta part en ceci, tu le sais mieux que moi, » dit-il. « Mais un roi devrait songer à ce qu'un homme peut supporter, même s'il est aussi un sujet et mieux encore un fils. Si tu as pensé m'enchaîner à cette île, alors tu as mal choisi ta chaîne. Il ne me reste plus ni femme, ni amour envers ce pays. Je m'en vais quitter cette île des rêves qui a perdu son charme, où les femmes, dans leur superbe, exigent des hommes qu'ils rampent à leurs pieds. J'userai mon temps de vie à meilleur escient en d'autres lieux, où je n'encours pas le dédain et où je suis reçu avec plus d'honneur. Tu peux te chercher un autre héritier qui sera mieux apte à jouer les domestiques. De mon héritage, je ne réclame que ceci, le navire Irilonde et tous les hommes qu'il peut porter. Je prendrai bien ma fille avec moi si elle était en âge, mais je vais la remettre aux mains de ma mère. À moins que tu n'aies une passion pour les moutons, tu ne t'opposeras point à cela, et tu ne permettras pas que l'enfant s'atrophie en la laissant grandir parmi des femmes mutiques, nourries de froid, d'insolence et de mépris envers ceux de son sang. Elle est de la lignée d'Elros, et tu n'auras pas d'autres descendants par ton fils. J'ai terminé, je m'en vais à présent me consacrer à des tâches de meilleur profit. » Jusque-là, Meneldur était demeuré assis, patientant, les yeux baissés et sans un geste. Mais à cet instant, il soupira et leva les yeux. « Aldarion, mon fils, » dit-il tristement, « le roi te dirait que tu fais preuve, toi aussi, d'une froide insolence et de mépris envers ceux de ton sang, et que tu condamnes toi-même les autres sans les avoir écoutés. Mais ton père qui t'aime et s'inquiète pour toi te pardonnera cela. Je ne suis pas seul coupable d'avoir, jusqu'à aujourd'hui, mal interprété tes projets. Mais quant à l'affront qui t'a été infligé, et dont, hélas, on ne parle que trop, je n'y suis pour rien. J'ai aimé Erendis, et nos cœurs ayant même inclination, il m'est arrivé de penser que son lot était dur à porter. Tes desseins m'apparaissent maintenant en toute clarté, mais si tu es d'humeur à entendre autre chose que des éloges, je te dirai que tu te laissais également guider avant tout par ton bon plaisir. Et peut-être les choses aurait-elle été fort différente si tu avais parlé plus ouvertement au départ ?«
Le roi peut avoir des reproches à me faire !» s'écria Aldarion avec plus de ferveur. « Mais non pas celle dont tu parles. À elle, tout au moins, je me suis toujours expliqué longuement et à maintes reprises. Mais ce fut toujours à une oreille froide et incapable de comprendre. Tout autant qu'un gamin faisant l'école buissonnière et qui va raconter comment il grimpe aux arbres à une gouvernante qui s'inquiète seulement des habits déchirés et de servir les repas à l'heure. Je l'aime, sinon j'en serais moins affecté. Le passé, je le conserverai en mon cœur. L'avenir est mort. Elle ne m'aime pas, ni aucune chose. Elle n'aime qu'elle-même. Avec Númenor pour cadre et moi-même pour chien domestique, sommeillant au coin du feu jusqu'à ce que l'envie lui prenne de se promener dans ses champs. Mais voilà que les chiens eux-mêmes lui paraissent à présent trop sales. Aussi s'est-elle appropriée Ankalimé pour la faire chanter en cage. Mais suffit. Ai-je le congé du roi pour partir? Ou a-t-il quelque chose à me donner?
Le roi, répondit Tar-Meneldur, a beaucoup réfléchi à ces choses au cours de ces journées qui parurent bien longues depuis ton dernier passage à Armenelos. Il a lu la lettre de Gil-galad, laquelle est honnête et grave de ton. Hélas, à ses prières et à tes demandes, le roi de Númenor doit répondre non. Il ne peut faire autrement, au vu de son propre entendement des périls inhérents à l'une et l'autre voie, faire des préparatifs de guerre ou n'en faire point.
Aldarion haussa les épaules et fit un pas comme pour sortir. Mais Meneldur leva une main qui enjoignait l'attention et poursuivit.
Cependant le roi, bien qu'il ait maintenant régné sur Nouménor durant 142 années, n'est nullement certain que sa compréhension des événements soit telle qu'il puisse arriver à une juste décision en des affaires à ce point graves et périlleuses. »
Il s'arrêta, et prenant un parchemin écrit de sa propre main, il lut d'une voix claire
« Il s'ensuit que, premièrement, pour l'honneur de son fils bien-aimé, et deuxièmement, pour un meilleur gouvernement du royaume en des circonstances dont son fils a une plus claire appréhension, le roi a décidé de céder un continent, le sceptre, à son fils, qui sera dorénavant Tar-Aldarion, le roi. » « Ceci, dit Meneldur, lorsqu'en sera fait publiquement la proclamation, dévoilera à tous ma pensée en la présente éventualité. Tu te trouveras hors d'atteinte des railleries, et ta position émancipera tes pouvoirs, de sorte que d'autres pertes te sembleront plus légères à porter. À la lettre de Gil-galad, tu répondras toi-même, lorsque tu seras roi, selon ce qui alors semblera juste au détenteur du sceptre. »
Stupéfait, Aldarion resta un instant immobile. Il était venu prêt à affronter la colère du roi qu'il avait délibérément tenté d'attiser. Et voilà qu'il se trouvait déconcerté. Puis, comme poussé par un vent jaillissant subitement d'un recoin inattendu, il tomba à genoux devant son père. Mais un moment après, il releva la tête qu'il avait inclinée et éclata de rire. Comme il avait coutume de faire lorsqu'il entendait parler d'une action généreuse, car cela lui réjouissait le cœur.
« Père, dit-il, demande au roi d'oublier mon insolence à son égard, car c'est un grand roi, et son humilité le place bien au-dessus de mon orgueil. Je me déclare vaincu, je me rends entièrement. Il est impensable qu'un tel roi cède le sceptre, alors qu'il possède encore vigueur et sagesse. »
« Et pourtant, la résolution en est prise, dit Meneldur. Le conseil va être convoqué incontinent. »
Lors, après 7 jours révolus, le conseil se réunit, et Tar-Meneldur leur fit part de sa résolution et posa le parchemin devant eux. Leur stupéfaction fut grande, car ils ignoraient encore tout des circonstances dont parlait le roi. Et tous ils protestèrent, le suppliant de différer sa décision, tous sauf Alatan de Yarastorni. Car bien que sa propre vie et ses goûts fussent tout à l'opposé, il tenait son cousin Aldarion en haute estime. Et il jugea que le geste du roi était un geste noble, et s'il avait lieu d'être, était finement orchestré. Mais à ceux qui formulaient telle ou telle objection à ses desseins, Meneldur répondit
« Ce n'est pas sans mûre réflexion que je suis parvenu à cette décision, et en mon esprit, j'ai considéré toutes les raisons qu'avec sagesse vous invoquez. Maintenant, et non plus tard, est le moment où je juge approprié d'exprimer ma volonté sur ce point. » Et ce, pour des raisons que tous ici doivent deviner, même si personne ne les a mentionnées. Que le décret soit donc promulgué sans tarder. Mais si vous le souhaitez, il n'entrera en vigueur qu'à l'Erukielme, au printemps. Jusque-là, je garde en mes mains le sceptre. »
Lorsque la nouvelle de la promulgation du décret parvint en Emerié, Erendis fut consternée, car elle y lut la réprobation du roi à son égard, alors qu'elle avait foi en sa faveur. Et en cela, elle voyait juste, mais elle n'imagina pas que le décret pût comporter une signification de toute autre portée. Peu après vint un message de Tar-Meneldur, une injonction, en réalité, bien que formulée en paroles courtoises. On la conviait à venir à Armenelos et à amener avec elle la dame Ankalimé pour y demeurer, au moins jusqu'à l'Erukielme, et la proclamation du nouveau roi.
« Il est prompt à la riposte, » pensa-t-elle, « et j'aurais dû le prévoir. Il me dépouillera de tout. Mais pour ce qui est de moi-même, je n'accepterai aucun ordre de lui, serait-ce par la bouche de son père. »
Et elle fit réponse à Tar-Meneldur en ces termes.
« Roi et père, ma fille Ankalimé viendra assurément si tel est ton ordre. Je te prie de prendre en considération son jeune âge et de veiller à ce qu'elle soit logée au calme. Quant à moi, je te demande de m'excuser. J'ai appris que ma maison d'Armenelos avait été rasée, et en ces jours, je répugnerais à me trouver hôte de quiconque, et moins que tout, sur un navire servant d'habitation flottante parmi une foule de marins. Autorise-moi donc à demeurer dans ma solitude,
à moins que la volonté du roi soit de reprendre également cette maison. »
Tarmeneldur lut cette lettre avec inquiétude, mais elle n'atteignit pas son cœur. Il la montra à Aldarion, qu'elle semblait viser au premier chef. À son tour, Aldarion lut la lettre. Et le roi, considérant le visage de son fils, dit « Te voilà chagriné, certes, mais à quoi d'autre t'attendais-tu ? »
« Pas à cela, du moins, » dit Aldarion. « C'est bien au-dessous de l'espoir que je mettais en elle. Elle s'est rabaissée. Et si j'en suis responsable, ma faute est noire, vraiment. Mais est-ce que les âmes véritablement grandes s'étrécissent dans l'adversité ? Ce n'est pas cela qu'il fallait faire, pas même par haine ou par vengeance. Elle aurait dû exiger qu'on lui fasse apprêter une noble demeure. Et réclamant une escorte de reine, elle aurait dû revenir à Armenelos, sa beauté royalement parée et l'étoile au front. Et ainsi, aurait-elle gagné quasiment tous les cœurs de l'île de Númenor, et c'est alors qu'elle aurait pu me faire passer pour un fou ou un malotru. Les Valar me sont témoins que j'eusse préféré cela. Plutôt une reine splendide qui me contre dans mes desseins et m'accable de ses dédains, que la liberté de régner, tandis que la dame Elestirnée s'enfonce, déchue, dans son propre crépuscule. Et avec un rire amer, il rendit la lettre au roi. « Eh bien, dit-il, c'est ainsi. Mais s'il y en a qui répugnent à vivre sur un vaisseau parmi des marins, on pardonnera à d'autres leur peu de goût pour la vie dans une ferme à moutons parmi des servantes. Toutefois, je refuse à ce que ma fille soit éduquée de la sorte. Au moins choisira-t-elle en connaissance de cause. »
Il se leva et demanda la permission de se retirer.